Mystère résolu, chapitre 3. Bien souvent, il peut être difficile de savoir exactement ce que Dieu est en train de faire, à un moment donné, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes au cœur de quelque chose, au milieu d'une épreuve dans la vie, dans l'attente de quelque chose pour lequel vous avez prié, il peut être difficile de savoir ce que Dieu prépare. D'un côté, nous savons que Dieu agit toujours. Il est constamment à l'œuvre et en mouvement, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Mais il peut être difficile de comprendre ce qu'il fait au moment présent. En général, il nous faut du temps pour pouvoir revenir en arrière et dire « Ah, voilà ce que Dieu faisait. Maintenant, je comprends ce que Dieu était en train de faire. » Pourquoi Dieu ne vous donne-t-il pas simplement le plan sur 30 ans de votre vie? Pourquoi ne vous envoie-t-il pas simplement un email avec un itinéraire détaillé pour les 3 prochaines décennies, disant « D'abord tu feras ceci, puis tu iras là et feras cela, ensuite tu rencontreras cette personne et feras ceci. » Pourquoi Dieu ne nous donne-t-il pas tout le plan dès le début? Eh bien, c'est justement ce que je veux que nous examinions ce matin. Alors si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Éphésiens chapitre 3. Nous avons étudié la lettre de Paul à l'église d'Éphèse ces dernières semaines, et nous sommes arrivés au 3e chapitre. 3:1. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Christ Jésus pour vous, les non-juifs, Paul dit, c'est pourquoi. Il a construit un raisonnement jusqu'ici dans la lettre aux Éphésiens. Comme dans la plupart des lettres de Paul, la première moitié de la lettre est principalement théologique. Et la deuxième moitié explique comment appliquer cette théologie à notre vie quotidienne. Paul a parlé de la grâce de Dieu, qu'il est par la grâce extraordinaire de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est rien que nous puissions faire par notre propre force ou notre propre volonté. Mais Dieu, dans sa grande bonté et sa miséricorde, a répandu sa grâce sur nous et nous a sauvés de la destruction. À la fin du chapitre 2, que nous avons examiné dimanche dernier, Paul s'adressait aux non-juifs dans l'Église, c'est-à-dire aux croyants non-juifs. Il a dit qu'avant de connaître Jésus, ils étaient coupés verticalement de Dieu et coupés horizontalement du peuple de Dieu. Mais à cause de la croix, ils sont maintenant inclus. Nous sommes maintenant inclus. Nous avons la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres. Paul va donc développer cette idée ici. Il est intéressant de noter qu'il se nomme un prisonnier de Christ. Paul est en prison à Rome, mais il ne se désigne pas comme un prisonnier de Rome. Au lieu de cela, il se dit prisonnier de Christ, parce qu'il a été emprisonné pour avoir été serviteur et témoin de Christ. En d'autres termes, Paul n'est pas en prison pour avoir volé. Il est en prison pour avoir prêché l'Évangile aux non-juifs. Paul regarde sa situation avec les yeux de l'Évangile. Même s'il est en prison, il voit la mission et les desseins de Dieu. Ainsi, au verset 1, Paul est sur le point de prier pour l'Église, mais il s'interrompt lui-même. Il fait une digression. Il passe à une autre idée avant de revenir à sa prière au verset 14. Est-ce que cela vous arrive d'être interrompu pendant que vous priez? Vous consacrez du temps à la prière, mais quelque chose se produit et vous êtes distrait. En général, quand je suis distrait, c'est par mes propres pensées. Je m'assieds pour prier et mon esprit saute vers autre chose. C'est ce qui arrive à Paul ici. Il est sur le point de prier pour l'Église, puis il pense à autre chose qu'il veut dire, conduit par le Saint-Esprit. 2. Supposons que vous avez entendu parler de la charge de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je l'ai déjà écrit en peu de mots. Paul a aidé à fonder l'Église d'Éphèse. Il y a exercé son ministère pendant 3 ans, mais un certain temps s'est écoulé depuis. Il y a probablement de nouvelles personnes dans l'Église qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Il suppose donc qu'elles ont aussi entendu parler de la grâce de Dieu et de la façon dont Dieu s'est servi de Paul pour exercer un ministère auprès des non-juifs. Au verset 3, il parle d'un mystère. J'aime beaucoup les histoires de mystère. J'aime regarder un film où l'on ne découvre l'identité du principal méchant qu'à la toute fin. C'est amusant d'essayer de deviner avant que cela ne soit révélé. Mais est-ce le genre de mystère dont Paul parle ici? Continuons la lecture. 4. Lorsque vous lisez ceci, vous pouvez comprendre la connaissance que j'ai du mystère du Christ. 5. Qui n'a pas été indiqué au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Paul dit qu'il a résolu le mystère, mais que les générations avant lui n'ont pas pu le résoudre. Peut-être disposaient-elles de certains indices, mais elles n'ont pas pu le résoudre. Mais maintenant, grâce au Saint-Esprit, le mystère a été révélé aux saints apôtres et prophètes. Nous avons également vu cette expression à la fin du chapitre 2. Jésus a choisi les apôtres et les prophètes pour poser un fondement. Le Saint-Esprit a guidé ces hommes dans toute la vérité et les a inspirés à écrire les Écritures que nous avons aujourd'hui. Ainsi, ils ont aidé à établir l'Église primitive et Dieu s'est servi d'eux pour nous donner les Écritures que nous possédons aujourd'hui. Donc, avant Jésus, le mystère demeurait un mystère. Après Jésus, par les apôtres et les prophètes, le mystère a été résolu. Cela soulève la question, quel est ce mystère? 6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers, membres du même corps et associés à la promesse en Jésus-Christ, par l'Évangile. Quel est le mystère? Que les non-juifs sont cohéritiers. Mais cohéritiers de quoi? Nous en avons parlé dimanche dernier. Héritier de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, selon laquelle Israël serait finalement une bénédiction pour tous les peuples. Le mystère était que Dieu ferait entrer les non-juifs, les païens, à l'intérieur. Les non-juifs n'étaient plus des étrangers pour le peuple de Dieu. Ils n'étaient plus à l'écart. À cause de Jésus, ils faisaient maintenant partie du peuple. Il peut nous être difficile d'apprécier cela pleinement, car pour nous, cela n'a jamais vraiment été un mystère. Nous n'étions pas là avant que Jésus ne vienne sur la terre. Alors il nous est facile de penser, comment cela aurait-il pu être un grand mystère? Les prophètes n'avaient-ils pas vu cela venir? Ésaïe n'a-t-il pas parlé du Messie? N'est-il pas dit qu'il naîtrait à Bethléem? Jérémie n'a-t-il pas parlé de la Nouvelle Alliance? Lorsque l'on sait déjà comment le film se termine, cela ne semble pas être un grand mystère. Nous pouvons revenir en arrière et voir tous les indices. Nous pouvons regarder en arrière et dire, bien sûr que cela s'est passé ainsi. Mais pour les gens de l'époque, c'était un mystère. Ils ne savaient pas exactement à quoi cela ressemblerait. J'ai beaucoup réfléchi à ce mystère cette semaine. Et je me suis posé la question, que cela nous apprend-il sur Dieu? Et que cela nous apprend-il sur nous-mêmes? Vous voyez, ce n'était pas un mystère pour Dieu. Dieu savait, Dieu sait tout. C'était son plan. Mais au lieu d'exposer tout le plan détail par détail à tout le monde dès le début, il l'a plutôt révélé progressivement au fil du temps. Il préparait quelque chose tout au long. Même si tout le monde ne connaissait pas tous les détails. N'en est-il pas de même pour nous? Il y a beaucoup de choses que nous ignorons au sujet de notre avenir. Il y a beaucoup de détails que nous ne connaissons tout simplement pas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses qui restent un mystère pour nous aujourd'hui. Et lorsque je lis ces versets dans Éphésiens chapitre 3, je comprends que c'est ainsi que Dieu aime faire les choses. Nous aimerions peut-être avoir un plan sur 10 ou 20 ans, mais Dieu se satisfait de révéler lentement ce qu'il prépare. Comme je l'ai déjà dit, il semble que Dieu ait tendance à nous guider avec une lampe de poche et non avec un projecteur. Un projecteur produit une grande quantité de lumière. Il inonde un endroit de lumière, alors qu'une lampe de poche n'éclaire pas autant. L'idée c'est que Dieu ne dit généralement pas « Voici le plan de 30 ans pour ta vie », avec des détails techniques et précis pour chaque année. Cela ressemblerait à un projecteur, qui révèle tout d'un coup. Au lieu de cela, il nous guide le plus souvent avec une lampe de poche. En d'autres termes, il nous donne juste assez de lumière pour nous montrer l'étape suivante, qui conduit à l'étape suivante, qui conduit à l'étape suivante, et ainsi de suite. J'ai rencontré un jeune couple cette semaine, et nous parlions de l'avenir. Je leur ai dit que le jour où j'ai épousé ma femme, je n'avais jamais entendu parler de la ville de Gdansk. Le jour de notre mariage, je n'avais jamais pensé à vivre en Pologne. Mais la lampe de poche de Dieu nous a conduits à faire un pas de foi, qui a mené à un autre pas de foi, puis encore un autre. Et 2 ans plus tard, nous prenions l'avion pour venir nous installer ici. Avance rapide jusqu'au week-end dernier. J'emmenais ma fille aux toilettes à la Galeria Bałtycka. Et en chemin, elle m'a demandé « Tu sais où sont les toilettes ?» Et je lui ai répondu « Ma fille, je viens dans ce centre commercial depuis 17 ans. Je sais où sont les toilettes. » Et en le disant à voix haute, j'ai pensé « Waouh, 17 ans, c'est long. » Si on m'avait montré ce moment-là le jour de mon mariage, il y a presque 20 ans, j'aurais eu tellement de questions. J'aurais été vraiment perdu. Mais souvent, les choses prennent plus de sens quand on les regarde en arrière, plus encore qu'au moment même où elles se passent. Voici l'idée principale. Accepte la lampe de poche. Accepte le mystère. Profite du voyage. Dieu a un plan et un but pour ta vie. Il est aux commandes. Il aplanit ton chemin. Il est avec toi. Il est pour toi. Il est de ton côté. Et il prépare quelque chose dans ta vie. Cela pourrait ne pas avoir de sens pour toi en ce moment, mais avec le temps, par la grâce de Dieu, tu pourras regarder en arrière et dire « Ah ah, c'est donc cela que Dieu faisait. Voilà ce qu'il préparait. » Mystère résolu. 7. C'est de cet évangile que j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée, d'annoncer parmi les païens les richesses incompréhensibles de Christ. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Même si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Christ est mort pour nous. Jésus a payé pour nos péchés sur la croix. Pas 50%, pas 80%, pas 99%. Il les a totalement payés, 100%. Et il est ressuscité d'entre les morts, et il est assis à la droite du Père. Nous sommes sauvés par la grâce. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Voilà la bonne nouvelle. Et Paul dit au verset 7 que c'est à cause de la grâce de Dieu qu'il est devenu ministre de l'Évangile, qu'il a été appelé à annoncer l'Évangile aux païens. Maintenant, quand nous pensons à l'apôtre Paul, nous le considérons souvent comme le plus grand missionnaire de tous les temps. Paul était audacieux dans la prédication de l'Évangile, ce qui lui a parfois valu d'être battu ou jeté en prison. Et Dieu s'est servi de Paul pour accomplir de grandes choses. C'est ainsi que nous percevons Paul. Mais au verset 8, nous avons un aperçu de la façon dont Paul se voyait lui-même. Il se qualifie de le moindre de tous les saints. Mais comment pouvait-il se considérer comme le moindre, alors que nous le voyons comme le plus grand? Je veux dire, c'est Paul. Il a fondé de nombreuses églises. Dieu s'est servi de lui pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Comment peut-il se considérer comme le moindre de tous? S'agit-il simplement d'une fausse humilité? Non, Paul comprenait la grâce de Dieu. Avant de rencontrer Jésus, il persécutait l'Église chrétienne. Il était opposé à l'Église et essayait de l'arrêter. Jusqu'au jour où, sur le chemin de Damas, Paul a rencontré Jésus et sa vie a été complètement transformée. Paul connaissait la personne qu'il était auparavant, mais il n'a pas laissé cela le retenir. Il savait qui il était, mais il comprenait aussi que, par la grâce de Dieu, le Seigneur pouvait l'utiliser pour accomplir des choses extraordinaires. Nous ne devons jamais oublier que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Se rappeler la grâce que Dieu nous a accordée nous aide à être gracieux envers les autres. Paul reconnaissait son passé, mais il n'était pas prisonnier de son passé. Jésus l'a libéré pour qu'il soit l'instrument choisi de Dieu afin de partager l'Évangile avec les païens. Nous avons tous un passé. Nous n'avons pas besoin de faire semblant de ne pas en avoir. Mais ne laissez pas votre passé vous empêcher de répondre à l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Paul n'était pas seulement un messager de la grâce, il était aussi la preuve de la grâce de Dieu. Si Dieu peut se servir de quelqu'un qui persécutait autrefois son Église, alors Dieu peut certainement se servir de quelqu'un comme vous et moi pour parler aux gens des richesses insondables qui sont en Jésus-Christ. Ne laissez pas votre passé faire obstacle à l'avenir que Dieu a pour vous. 9. Et de mettre en lumière, pour tous, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. 10. Afin que maintenant, les dominations et les autorités, dans les lieux célestes, connaissent, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est fascinant. Par l'Église, par nous, la sagesse infiniment variée de Dieu est manifestée dans le monde spirituel, dans les royaumes célestes. En d'autres termes, savez-vous à qui d'autre le plan de Dieu était un mystère? Aux anges. Comme le dit 1 Pierre 1, ce sont des choses que les anges désiraient sonder. Les anges découvrent les plans de Dieu à travers vous et moi. C'est par l'Église que la sagesse infiniment variée de Dieu leur est révélée. Le mot « infiniment varié » signifie posséder de nombreuses caractéristiques et formes, de nombreuses couleurs. Certains commentateurs suggèrent qu'il s'agit d'une référence poétique au manteau de plusieurs couleurs de Joseph dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, chacun de nous est unique, avec des talents et des dons différents que le Seigneur nous a donnés. Nous sommes un en Christ, mais nous sommes aussi différents. Et ces différences ou couleurs, pour reprendre l'image du manteau de Joseph, composent une belle tapisserie qui reflète la sagesse de Dieu, non seulement au monde, mais aussi aux anges. 11. C'était là le dessein éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. 12. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Une fois de plus, Paul rappelle à l'Église que même si le plan était un mystère pour tous, il a toujours été le plan de Dieu. C'était son dessein éternel, réalisé par son Fils. En d'autres termes, ce n'était pas un plan B pour Dieu. Son plan a toujours été la grâce par Jésus-Christ, qui est venu nous réconcilier, verticalement avec Dieu, et horizontalement les uns avec les autres, par la foi en lui. Paul dit, « Même si je suis en prison à cause de l'Évangile, ne soyez pas attristés par cela. Ne vous découragez pas à cause de ce que je souffre. Pourquoi ? Parce que Paul croyait que sa souffrance en valait la peine. Il était prêt à souffrir afin que l'Église puisse continuer d'avancer. Dans la vie chrétienne, la souffrance n'est jamais vaine. La souffrance n'est jamais inutile. Nous ne savons pas toujours comment Dieu va l'utiliser, mais nous avons confiance qu'il s'en servira. Rappelez-vous, Paul avait commencé à prier pour l'Église, puis il s'est interrompu pendant les 13 versets suivants. Au verset 14, il revient à sa prière, qui est une belle prière pour nous tous. 3, 14, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. 15, de qui toute famille a, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Qu'est-ce qui fait que Paul tombe à genoux? C'est la grâce incroyable de Dieu. L'Évangile nous rend humbles et nous remplit d'émerveillement devant un Dieu miséricordieux qui sauve les pécheurs. Quand je pense au fait que j'étais en train de sombrer rapidement dans un train fou du péché, mais que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, est descendu et m'a sauvé, cela devrait m'humilier, cela devrait m'émerveiller devant notre Créateur. Cela devrait me mettre à genoux. Si vous êtes nouveau ici, laissez-moi simplement vous dire que l'humilité est l'une de nos valeurs fondamentales à l'Église de l'Évangile. Si vous aimez aller à l'Église pour vous pavaner ou vous mettre en avant, ceci n'est pas ce type d'Église. Si vous pensez que vous êtes trop bien pour installer une chaise, ou pour ramasser des déchets par terre, ou pour aider quelqu'un à trouver une place assise, si vous croyez que tout cela est au-dessus de vous, laissez-moi vous avertir. Ce n'est pas ce genre d'église. Ce n'est pas une église où l'on cherche à se mettre en valeur ou à se faire remarquer. Ce n'est pas ce que nous sommes. Mais si vous voulez servir le Seigneur, si vous voulez servir le peuple de Dieu avec un esprit d'humilité, nous vous accueillons à bras ouverts. 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié, avec puissance, par son esprit, dans l'homme intérieur. Paul prie pour que l'Église soit fortifiée, avec puissance, par le Saint-Esprit, dans notre être intérieur. Que signifie notre être intérieur? L'être intérieur, ou l'homme intérieur, est une manière de décrire notre âme, l'aspect spirituel de notre vie. Paul dit ailleurs que même si notre moi extérieur ou notre être extérieur se détruit, c'est-à-dire même si nos corps s'usent et se fatiguent, notre être intérieur, l'aspect spirituel de notre vie, se renouvelle de jour en jour. Ainsi, le Saint-Esprit nous donne la puissance d'être fort spirituellement dans notre vie quotidienne, la puissance de marcher par la foi, la puissance de vaincre la tentation. C'est sa puissance, et non la vôtre, qui vous donne la force. Parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles dans la vie, nous pensons, il faut juste que je sois fort pour surmonter cela. Mais la Bible nous dit que lorsque nous sommes faibles, il est fort en nous. En d'autres termes, lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous vous sentez tenté, c'est le moment de vous appuyer sur la puissance de Dieu par le Saint-Esprit pour traverser l'épreuve. Même si nos corps s'affaiblissent avec le temps, votre être intérieur, l'homme intérieur, devrait devenir plus fort et plus vivant au fil du temps. Où que Dieu vous mène dans l'année à venir, ce sera sa puissance qui vous fortifiera. Et ce sera sa puissance qui vous soutiendra spirituellement. 17. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour que vous, enracinés et fondés dans l'amour, 18, puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Paul fait cette prière pour les chrétiens d'Éphèse, qui ont donc déjà reçu Christ. Mais Paul prie pour que Christ habite dans leur cœur par la foi, afin qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour. En d'autres termes, l'amour de Dieu vous stabilise. Il nous donne une fondation sur laquelle nous tenir. L'amour de Dieu garde nos pieds dans une bonne position. Mais alors que Paul continue de prier, il s'élève jusqu'à l'Esprit. Il prie pour qu'ils aient la force de comprendre et de saisir l'amour de Dieu pour eux. Et il dit ensuite que l'amour de Christ dépasse même la connaissance. C'est un amour qui dépasse l'entendement. Paul essaie même de décrire l'amour de Dieu comme une forme. Il parle de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu. Mais il n'existe aucune forme qui puisse contenir l'amour de Dieu. Il est trop long, trop large, trop haut. L'amour de Dieu est si vaste que nous ne pouvons pas le saisir. Mais Paul dit que nous devons continuer d'essayer de le saisir, continuer d'essayer de le comprendre. Mais avec qui? Tout seul? Non, il dit, avec tous les saints. La vie chrétienne est faite pour être vécue en communauté, avec le peuple de Dieu. Paul n'écrit pas à Georges à Éphèse en disant « Voici quelques astuces pour une vie spirituelle ». Non, il écrit à l'église d'Éphèse. C'est une démarche communautaire. Nous avons besoin les uns des autres pour nous aider à grandir dans la maturité en Christ, avec tous les saints ici présents. Dernier verset, 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul conclut cette prière par une doxologie. Il termine la prière par la louange et l'émerveillement. Paul dit que Dieu en est capable. Il en est capable. Dieu n'a pas de limite. On ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Il est capable de faire bien au-delà de tout ce que vous demandez, pensez ou imaginez, selon sa puissance qui agit en vous. L'un des grands avantages d'étudier une lettre entière ou un livre de la Bible, c'est que vous remarquez certains thèmes que vous n'auriez peut-être pas remarqués autrement. Par exemple, le verset 20 est un verset que nous citons parfois isolément. Nous pouvons dire à quelqu'un pour l'encourager que Dieu peut faire plus que ce que tu demandes, penses ou imagines. Et c'est vrai. Le verset 20 fonctionne aussi comme un verset indépendant. Mais lorsque vous pensez au verset 20, dans le contexte du reste du chapitre 3, je crois qu'il est encore plus puissant. De quoi Paul a-t-il parlé tout au long de ce chapitre 3? Et à la fin du chapitre 2 aussi, si vous y réfléchissez. Il a parlé du mystère du plan de Dieu pour le salut, qui a été révélé. Et Paul a dit que la réalité de ce plan est encore meilleur que ce que quiconque aurait pu prévoir. Le plan sage de Dieu est si extraordinaire que les anges nous regardent et en tirent des enseignements. C'est sur cette base que Paul dit « Louons notre Dieu incroyable qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, pensons ou imaginons. À lui soit la gloire et l'honneur, pour toujours et à jamais. » J'ai prêché sur cette prière en octobre dernier, si vous étiez là. Ce jour-là, nous avons distribué ces cartes. Sur la carte était écrit Éphésiens 3:20, et il y avait de l'espace pour écrire vos rêves spirituels, rêves relationnels et rêves personnels en tant que prière à Dieu. Où en êtes-vous avec ce que vous aviez écrit? C'est bien de faire le point de temps en temps et de voir comment les choses avancent. Comment ça se passe pour vous? L'une des choses que j'ai été inspiré d'écrire ce jour-là était que, en 2026, je voulais courir un marathon. J'ai déjà couru quelques semi-marathons dans le passé, mais je n'avais jamais couru un marathon complet. Et je me suis dit à l'époque, pourquoi ne pas le faire? Je suis en bonne santé, j'aime courir, et je veux être un exemple pour mes enfants, que tout est possible quand on croit et qu'on travaille dur. J'ai donc commencé à m'entraîner, et si Dieu le permet, j'essaierai de courir le marathon de Gdansk le mois prochain. Vos prières sont les bienvenues, et vous pourriez vous demander, qu'est-ce que ça change pour Dieu, la course à pied? Eh bien, je ne sais pas si Dieu se soucie de la course, mais je sais qu'il se soucie de moi. Il m'aime. Et il veut connaître mes espoirs, mes peurs et mes rêves. Dieu n'aime pas seulement la partie spirituelle en vous. Il vous aime dans votre entièreté. Souvenez-vous du verset, à quel point son amour est haut, large et profond pour ses enfants. Dieu se soucie des grandes choses et il se soucie des petites choses parce qu'il se soucie de vous. William Carey, le célèbre missionnaire en Inde, a dit, Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Entreprenez de grandes choses pour Dieu. Croyez et ayez confiance que Dieu peut faire plus que ce que vous demandez, pensez ou imaginez. Souvenez-vous que Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Que Dieu peut renverser une situation même quand tout semble sans espoir. Peut-être que vous priez pour quelque chose depuis des années, mais vous avez l'impression que rien ne se passe. Vous en avez assez d'être déçu. Alors vous avez simplement arrêté de prier pour cette chose. Vous avez cessé d'espérer. Vous avez arrêté de rêver. Vos prières sont devenues de plus en plus petites. Et à un moment donné, vous avez simplement arrêté de demander. Je connais cet endroit. Je pense que la plupart d'entre nous ici connaissent cet endroit. Et c'est un lieu bien réel. Mais c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin du peuple de Dieu, pour nous rappeler ce qui est vrai dans nos moments les plus sombres, pour nous rappeler de continuer à croire, à faire confiance, à prier de grandes prières. Comme le dit le proverbe, Dieu peut faire plus en réponse à une seule prière que ce que nous pouvons accomplir en 100 ans de planification. Comment tout cela va-t-il se dérouler? Nous ne savons pas. C'est un mystère. Mais ce n'est un mystère que pour nous. Ce n'est pas un mystère pour Dieu. Ses plans sont bons, ses voies sont bonnes. Vous pouvez toujours lui faire confiance. Il est un bon père. Si vous lui demandez du pain, il ne vous donnera pas une pierre. Vous ne savez peut-être pas toujours ce qu'il est en train de faire, mais il est toujours à l'œuvre. Il agit sans cesse. À lui soit la gloire et l'honneur, pour toujours et à jamais. Fin du sermon.